Técombe, château pointu. Première partie, chapitre 1, pour se mettre au courant. Reconnaissez-vous Ferdinand Arvoine, assise sur le vieux banc de pierre qu'ombrage un tilleul au coin de cette haute terrasse? Vous la connaissez bien, il y a 4 ou 5 ans, pensionnaire à Bonne-Grâce, l'humeur ardente, les yeux un peu sauvages, ses longues et lourdes nattes noires tombant dans le dos, la robe courte et le pied léger. Aujourd'hui, les yeux sont plus doux, la robe est longue et c'est une robe de deuil que borde une large bande de crêpes. Ferdine a perdu son père l'année d'avant. Elle l'avait rejoint, son éducation finie, à 17 ans et ce furent 2 mois qu'ils passèrent ensemble dans leur petit village. Le docteur Arvoine retrouvait sa fille droite et sincère et simple comme un garçon, telle qu'il la voulait, telle qu'il l'avait façonnée dès sa petite enfance. On ne la lui avait pas trop gâtée au pensionnat. Il concédait même que ses manières avaient gagné et qu'elle chantait fort agréablement. Elle lisait l'allemand et l'anglais. Elle pouvait traduire à son père, en s'aidant de dictionnaires spéciaux, certains articles de revues scientifiques étrangères auxquels il s'abonna tout exprès. « Cela vaudra toujours mieux pour toi que des romans Tauchnitz. » Elle plaida pour obtenir quelques romans, mais elle lut cependant les redoutables revues, d'abord parce que cela plaisait à son père, ensuite parce qu'elle entretenait ainsi une communauté de vues et d'intérêts avec Siméon Taubert, son toujours fidèle ami, son frère d'adoption. Mademoiselle Caton, l'estimable et rugueuse éducatrice de ses jeunes années, dirigeait le ménage. Ferdine, plus soumise depuis qu'on exigeait moins qu'elle le fût, plus raisonnable aussi, étudiait sous cette direction l'économie domestique, la cuisine. Sa musique, la promenade, les lectures, les visites quotidiennes à Mademoiselle Cornélie, la tante de Siméon, ne lui laissaient aucune heure oisive. Le soir, près de la cheminée où brûlaient en pétillant des racines noueuses, ou que remplissaient en été des fougères et des branches odorantes de genévrier, Ferdine causait avec son père, rentrée d'une longue course. Elle brodait, elle lisait à haute voix quelques pages intéressantes, ou bien elle chantait une simplette chanson de l'autre siècle en tirant de frêles accords de la guitare posée sur ses genoux. C'était une vie fort douce, fort unie, dont Ferdine goûta d'abord le charme comme elle eût goûté une histoire de nonne dans un livre. Mais l'activité de ses 17 ans, bientôt, réclama davantage, chercha des événements, chercha des émotions. Son imagination transfigura des incidents sans importance, grossit des contes de village, inventa des drames, se crut des pressentiments. Ferdine courut le danger de devenir romanesque. Elle écrivait son journal avec passion et se racontait à elle-même de fort longs et fort compliqués romans dont elle était l'héroïne. Il y avait des phrases brumeuses dans les lettres qu'elle expédiait, toujours avec un port double, à ses anciennes camarades de Bonne-Grâce et surtout à l'amie de cœur, Louise Miserlet, l'humble et dévouée petite âme, l'admiratrice constante de sa Ferdine. Elle eut de grands élancements vers quelque chose d'inconnu, des désirs mal définis et puis comme un vague mécontentement. C'était donc cela, l'état tant souhaité de grandes personnes? Ce serait éternellement cela, jusqu'au bout et rien d'autre? Oh, bien alors, il ne valait pas la peine d'être si pressé à 15 ans d'en avoir 20. À quoi Mademoiselle Octavie, l'exquise et sage amie plus âgée, répondit « Attendez, Ferdine, attendez, quand vous avez quitté Bonne-Grâce, vous m'avez promis de donner votre vie au bien. Je suis certaine qu'une activité se prépare à votre bonne volonté et que toutes vos facultés de cœur et d'esprit y trouveront un joyeux emploi. Pour commencer, rendez votre père très heureux. » Quand elle venait de recevoir une lettre de Mademoiselle Octavie, Ferdine se sentait comme rafraîchie par la saine réalité. Elle délaissait pour un jour ou deux ses chimères, elle écrivait à Siméon des lignes très sensées, elle cherchait à vivre dans le présent, et vite, elle allait inviter Ernest et Lionel, ses 2 petits amis très particuliers, à faire une grande promenade dans les bois ou une partie de luge. Puis venait un retour sur elle-même. Elle se disait, avec une mélancolie pleine d'orgueilleuse douceur, « Je me sacrifie, ma vie est sacrifiée à l'avance. » Toute la joie simple disparaissait alors. les pensées romanesques, l'inquiétude rentraient au galop. L'hiver, l'été presque entier s'était écoulé. Ferdine avait passé 10 mois auprès de son père et venait de se dire, au soir d'une journée de rêvasserie, « Cela durera donc toujours ?» quand justement cela était fini. Le docteur était tombé de son cheval dans un endroit fort dangereux, on le rapportait expirant à la maison, il prononçait encore quelques mots d'adieu, il n'était plus. Ce fut alors que Ferdine se crut dans un songe affreux et que, pendant des jours et des semaines, elle regarda autour d'elle avec des yeux égarés, repoussant la douleur réelle après s'être tant complue dans des mélancolies imaginaires. La sollicitude tendre de Siméon qui était accourue et de sa tante Cornélie la soutinrent dans cette crise longue et violente, sa première lutte avec la vraie souffrance. Puis il fallut se réapprendre à vivre. Il fallut envisager l'avenir. Le docteur Arvoine laissait peu de fortune. Sa clientèle avait toujours été pauvre. Il avait toujours été bienfaisant. La Maison Blanche et le jardin, une somme médiocre à la banque et quelques créances plus médiocres encore, c'était tout. On nomma un tuteur à Ferdine, le docteur Gaillère, un ancien ami de son père, homme loyal, intelligent, mais qui prisait très haut les avantages de la condition sociale et de la fortune et qui ne cachait point sa commisération à la jeune fille. Il vint la voir, s'arrachant pour 2 jours à ses occupations fort nombreuses. « Que ferez-vous ? » lui demanda-t-il en présence de Mademoiselle Cornélie, laquelle ne quittait guère Ferdine depuis son deuil. « Votre revenu suffirait à peine à ce que mes filles appellent leurs épingles. Épingles fort coûteuses, assurément. Mais l'éducation que vous avez reçue sera votre capital. Venez passer quelque temps dans ma maison. Ma femme, dont les relations sont nombreuses, cherchera pour vous une place d'institutrice, de dame de compagnie ou de lectrice auprès d'une jeune américaine. Des devoirs pas trop austères, un milieu élégant. » Ferdine répondit qu'elle n'avait aucun don pour l'enseignement ni aucun goût pour la dépendance, qu'elle demandait à vivre chez Mademoiselle Cornélie aussi modestement que possible et à ne voir personne. Le docteur Gaillère hocha la tête, mais voyant sa pupille fort pâle, amaigrie et nerveusement ébranlée, il se dit qu'une période de repos complet lui ferait du bien. Il n'insista pas et repartit. La Maison Blanche fut louée à Mademoiselle Caton elle-même, qui avait des économies et se proposait de prendre quelques pensionnaires. Elle supplia Ferdine de garder sa petite chambre de fillette qui donnait sur le jardin et par la fenêtre de laquelle, tant de fois et combien d'années auparavant, elle avait observé Siméon et Ernest qui menaient paître leurs escargots. Ferdine accepta, touchée. Elle aimait beaucoup Mademoiselle Caton maintenant. Sa vieille bonne à cariâtre faisait partie du passé qui disparaissait fragment après fragment. Mais elle prit ses repas chez Mademoiselle Cornélie, et ainsi, chaque jour, elle traversait plusieurs fois le jardin par la longue allée sablée qui conduisait, à travers tant d'images et de souvenirs, jusqu'à la petite porte à claire-voie. Mais souvent, à cause d'autrefois, se disait Ferdine avec un sourire triste, quand il n'y avait là personne pour la voir, au lieu de passer par la porte, elle grimpait sur le mur, rassemblait sa jupe et sautait de l'autre côté. Oh, que les vacances de Siméon, les longues, tardaient à venir! Avant Siméon, ce fut Louise Miserlet qui arriva, et sa supplication de plusieurs jours, instante, renouvelée sous 1000 formes, pouvait se résumer ainsi. « Ferdine, sois ma sœur, partageons tout! » Ma grand-mère t'en prie comme moi, elle t'aime. Elle serait venue si sa santé le lui eût permis. J'ai besoin de toi, Ferdine. Je ne sais que faire de ma vie. Je m'ennuie à Château Pointu. Viens et sois ma sœur. Non, Million, répondit Ferdine, je ne serai jamais une parasite. Et comme autrefois, Million pleura, trouvant ce mot bien dur. Ferdine baissa les yeux sur l'opale qu'elle portait à son doigt depuis 3 ans et dont le cercle d'or avait été une fois déjà agrandi par le bijoutier. Elle se souvint de bien des choses et alors elle entoura Louise de ses bras. « Tu es une amie incomparable, lui dit-elle. J'irai en visite chez toi, si tu veux bien, plus tard. Pour le moment, tu es en visite chez moi. » Elles se promenèrent ensemble dans les environs, elles achetèrent ensemble du coton à tricoter et des figues confites chez Mademoiselle Augustine, la vieille boutiquière dont Siméon avait été le comptable dans les jours d'autrefois où l'on riait de si bon cœur. Elles parlèrent de bonne grâce, elles relurent de vieilles lettres et de vieux cahiers, elles retrouvèrent dans un vieux bureau le portrait de Léa Gaillère à la taille de guêpe. Il semblait à Ferdine que des années, au lieu d'une à peine, se fussent écoulées depuis ce jour des adieux à la pension. Puis Louise Miserlet partit à son tour et Ferdine, sans l'avouer à personne, se trouva horriblement seule. Les mois qui suivirent furent les plus cruels de sa vie. L'avenir lui semblait vide et sans espoir, la simplicité paisible de Mademoiselle Cornélie, le silence de la petite maison, les mesquineries des relations sociales au village, la sordide nécessité d'être économe, tout l'irritait ou l'accablait. Mais le pire mal était de n'avoir rien à faire. Mademoiselle Cornélie consentait malaisément à se laisser aider dans les travaux de son petit ménage si bien réglé et si frugal. Il n'était pas question de musique, naturellement, dans les premiers temps du grand deuil. Les abonnements aux journaux et aux revues étaient supprimés par économie. Que faire, oh, que faire des journées éternelles quand aucun devoir ne s'impose et qu'on n'a pas son pain à gagner ? Oh, si je pouvais me passionner pour quelque chose ! S'écriait Ferdine. Mais la botanique, sans Siméon, ne m'intéresse pas le moins du monde. J'ai relu 10 fois mes livres anglais et allemands. J'ai là une grammaire italienne. Que ne puis-je me prendre d'une belle ardeur pour la grammaire italienne ? Mais non, ce n'est pas là ce qu'il me faut. Dans les livres, les jeunes filles isolées se dévouent à quelques vieilles femmes bien désagréables qui meurent en leur léguant une fortune que chacun ignorait. Ici, je ne connais que Mademoiselle Augustine. Elle n'a pas besoin de moi, personne n'a besoin de moi. Et tu crois, cria-t-elle à Siméon aussitôt qu'elle le vit, tu crois que je mènerai cette vie-là jusqu'à ma vieillesse blanche ? Je deviens chaque jour plus exaspérée et plus méchante. Je n'ai pas 19 ans et déjà l'existence me pèse. Oh, qu'elle me pèse ! Siméon lui conseilla de travailler, il lui fit un programme de lecture et d'études. Non, ce qu'elle voulait, c'était agir et vivre. Mais, à part les travaux de couture que personne d'ailleurs ne songeait à offrir à Mademoiselle Arvoine, le village ne possédait aucune ressource. « Je me ferais diaconesse si j'avais la vocation, » gémissait Ferdine. « Mais je n'ai de vocation pour rien, voilà le grand mal. Je voudrais travailler, je n'en sais pas plus long. » Siméon, comme le docteur Gaillère, comme Louise, s'en alla quand le terme fut venu. Ferdine retomba dans son inaction désespérée. Un jour enfin, tout en larmes, elle écrivit à Louise « Trouve-moi une occupation, je t'en supplie. Demande à ta grand-mère d'écrire pour moi ses connaissances ou mettez une annonce dans un journal. Je n'ose m'adresser à mon tuteur après avoir refusé ses offres. Je t'assure, Louise, sur ma conscience, que je ne suis pas faite pour l'enseignement. Quant au servage d'une dame de compagnie, non, oh non, dites que vous ne m'imposerez pas cela. Qui voudrait de moi, d'ailleurs ? Je ne suis pas amusante avec mon deuil et ma tristesse. Je t'assure, Louise chérie, que je n'ai aucune sotte fierté. Si la place de buraliste dans mon village était vacante, avec quelle joie je la prendrais ? M'accepterait-on, cependant ? Je ne suis guère ferrée sur la géographie. Ce que je sais le mieux, c'est la grammaire, l'orthographe, le style. Je lis et j'écris pas mal du tout l'anglais et l'allemand. Mademoiselle Audenberg me donnerait des certificats. Une idée me vient, Louise. Je crois que je ferais une assez bonne secrétaire. Voyons, Louisette, réfléchis. N'y a-t-il pas dans le cercle de vos amis personne qui ait besoin d'une pauvre petite secrétaire et pas chère ? Le ton de cette lettre était déjà, vous vous en apercevez, moins triste à la fin qu'au commencement. Ferdine se sentait toute ranimée et presque joyeuse à la seule pensée d'un travail conforme à ses aptitudes. Et pendant les jours d'attente qui suivirent, elle se vit déjà secrétaire d'un vieux savant morose, d'un philanthrope souriant ou de la directrice sévère d'un collège féminin. Mais ce n'est jamais ce qu'on prévoit qui arrive. Une semaine plus tard, Louise répondait « Chérie, nous avons cherché, grand-mère et moi. Nous avons trouvé quelque chose, mais l'accepteras-tu ? C'est dans notre voisinage immédiat, à 10 minutes à peine de Château Pointu, tout au bas du village, près de la rivière. Il y a là une fabrique de chapeaux de paille que j'évitais toujours autrefois parce que ça sent le soufre. Du reste, tu n'aurais pas à craindre les odeurs malsaines car les bureaux se trouvent dans une aile à part. Tu devines, à ma façon de te dire cela, le désordre de mes idées. Cette affaire me bouleverse parce qu'elle te concerne. Pauvre ami, te sentir enfermé dans un bureau, à écrire des centaines de lettres en français, en allemand et en anglais, toutes sur le sujet intéressant des chapeaux de paille. Oh, si ce n'était que Château Pointu n'est qu'à 10 minutes, je te supplierais de refuser. » Le directeur propriétaire, je crois, de la fabrique est un nouveau venu. Il est parent de certains cousins éloignés de ma grand-mère et nous sommes sur un pied de visite avec sa femme et ses 4 filles. Il a aussi 1 fils ou 2, je crois. Tu me connais, je suis horriblement sauvage. Le léger vernis de sociabilité acquis à bonne grâce s'écaille ici de jour en jour et j'ai fui la famille Escandier plus que je ne l'ai recherchée jusqu'à présent. Mais je la cultiverai à cause de toi. Grand-maman dit que ce sont des gens très bien élevés, très supérieurs au directeur d'avant, qui était un rustre et un meneur d'esclaves. Monsieur Escandier est ingénieur mécanicien. Son fils aîné s'occupe de la partie commerciale et dirige les bureaux. Il y a 2 ou 3 comptables et un employé pour la correspondance. C'est précisément l'emploi qu'on t'offre. Tu devrais apprendre à te servir du typewriter et te mettre au courant des expressions commerciales. Pauvre chère Ferdine, mais nous te ferons la situation aussi douce que possible, car tu demeureras à Château Pointu, cela va sans dire, et je t'accompagnerai chaque matin à ton bureau, du moins si tu me le permets. On t'offre 100 francs par mois pour commencer, avec promesse d'augmentation quand tu seras très habile à manier cette machine à écrire. La fabrique est assez importante, elle occupe environ 200 ouvriers et ouvrières. Que dis-tu de tout cela, Ferdine ? Oh, qu'en dis-tu ? La contrée est jolie, elle est salubre. Pour toi, je sortirai de ma misanthropie, nous prierons grand-maman de nous faire faire des connaissances et d'inviter du monde. Ferdine, ayant dévoré cette lettre d'un regard, ne fit qu'un bond de sa chambre à travers le jardin jusque chez Mademoiselle Cornélie. 100 francs par mois, gagnés par son propre travail, un bureau, une machine à écrire, et ce monde inconnu d'une fabrique, une rivière, des rideaux d'arbres, Château Pointu perçant les airs de sa tourelle aiguë, et Louise tout près, dont l'affection était si réconfortante. Oui, dit Mademoiselle Cornélie quand elle fut au courant, ce qui me rassurerait pour toi, ma petite Ferdine, dans ce changement étonnant de ta position, c'est le voisinage d'une famille amie. Et Mademoiselle Cornélie, avec sa sensibilité et ses idées d'autrefois, ne sut point cacher à Ferdine qu'elle la trouvait fort à plaindre de tomber du rang de jeune demoiselle oisive à celui de jeune personne obligée de gagner sa vie. « Mais vous ne savez pas, dit Ferdine, que même lorsque j'avais encore mon cher papa à entourer et à chérir, je trouvais l'existence vide. N'ai-je pas des mains, de la santé, de l'intelligence, un esprit qui se dévore à ne rien faire ? Oh, chère mademoiselle Cornélie, je vous le demande, comme je le demanderais à ma pauvre maman que je n'ai point connue, permettez-moi d'accepter cette place. Écrivez vous-même à Siméon que ce projet est raisonnable. Siméon est mon grand frère, maintenant plus que jamais. Je ne ferai rien sans qu'il m'y autorise. » La quinzaine qui suivit fut occupée par un rapide échange de correspondances. Ferdine répondit à Louise qu'elle acceptait avec joie, pourvu que M. Gaillère, son tuteur, ne s'y opposât pas. Alors la grand-maman de Million écrivit elle-même au docteur Gaillère, non pas en vers, comme dans ses missives à sa petite fille, mais en simple prose, comme une grand-maman tout ordinaire. Le docteur, connaissant la position de Fortune et les relations sociales de Madame la douairière Miserlet et de Louise, répondit qu'il estimait sa pupille fort privilégiée d'avoir, dans ces circonstances pénibles, trouvé de telles protectrices. Il va sans dire que Louise bondit au mot de protectrice et brûla la lettre, mais l'autorisation du tuteur n'en était pas moins acquise. Tout s'arrangea fort rapidement, mais Siméon Taubert eut un vif chagrin de savoir sa petite sœur d'adoption réduite à travailler pour des étrangers. Il eût voulu réunir tout ce qu'il aimait, sa tante, son frère Ernest et Ferdine, dans un chez-soi aimable et chaud, et là les entourer d'affection et d'une abondance acquise par son travail. Il achevait ses études dans une pauvreté qui n'était pas de la gêne, de dépenser toujours un sou de moins qu'il ne possédait. Il gagnait, en donnant des répétitions, pas mal d'argent pour ses livres et ses instruments, et l'avenir, aussitôt qu'il aurait passé ses derniers examens, semblait assuré pour 2 ou 3 ans au moins, car un jeune Russe très riche et pris de géologie venait de l'engager comme compagnon de voyage autour du monde. C'était pour lui un bonheur inespéré, un admirable complément de ses études, une de ces choses si belles qu'on ose à peine y croire. Siméon disait « Je ne sais ce que j'ai fait pour qu'une pareille chance me choisisse. » Et sa tante Cornélie pensait avec un sourire ému « J'ai tant prié !» Donc, en quelques mots bien tristes et bien affectueux, Siméon envoya à Ferdine sa permission de grand frère et ils se dirent au revoir de loin, n'étant assez riches ni l'un ni l'autre pour s'accorder un voyage tout exprès. Cependant, Siméon espérait pouvoir donner quelques leçons supplémentaires avant la fin du semestre et prendre alors son billet pour Château-Pointu avant le départ vers les Antipodes.